Étienne Klein, bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver aux Utopiales. Vous étiez déjà venu en 2012. Alors, évidemment, on ne vous présente plus, mais tout de même, vous êtes physicien, docteur en philosophie, chercheur. Vous publiez beaucoup dans la volonté de rendre la science accessible, mais comme disait Einstein, de rendre les choses simples autant que possible, mais pas plus simples, une phrase que vous citez assez régulièrement. Alors, je vous conseille au public, par exemple, la collection Champs, la collection chez Flammarion, des petits livres jaunes, où Étienne Klein présente la physique, la science, mais aussi des beaux portraits de ceux qui la font à travers des ouvrages qui sont enchanteurs parce que très très lisibles et plein d'enseignements. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui paraît simple à poser, qui est qu'est-ce que le réel ? Alors je voulais vous demander au départ d'où vient, si elle est vraie, la confusion que fait le grand public entre réel et vrai. On a tendance à les prendre pour synonymes.
Bon, bonjour à tous. La confusion entre réel et vrai, à vrai dire, je ne sais pas très bien d'où elle vient. Il me semble qu'elle vient peut-être du fait qu'on dira d'une théorie physique, par exemple, qu'elle est vraie, si elle rencontre le réel exactement comme les prédictions qu'elle permet de faire. C'est-à-dire, elle s'engage sur des prédictions de résultats d'expérience, par exemple, et si ces résultats obtenus par l'expérience sont toujours conformes aux calculs théoriques qu'elle a, et aux prédictions qu'on peut en tirer, on dira que la théorie est vraie. En fait, le mot vrai en science, on l'utilise de moins en moins, parce que Karl Popper est passé par là, et il a expliqué qu'une théorie ne pouvait jamais se dire complètement vraie, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle expérience dont un résultat pourrait falsifier les bases conceptuelles. Donc, j'ai l'impression plutôt que les scientifiques utilisent de moins en moins le terme de vérité. Et ce qu'ils visent, c'est plutôt d'entrer en contact avec le réel, pas forcément de le décrire complètement, mais au moins de trouver des points de contact qui puissent leur permettre d'éprouver leur théorie.
Alors, en fait, on peut imaginer qu'il y a deux exceptions du rapprochement entre vrai et réel. Il y a celui que vous dites, effectivement, qui était remis en cause en science. Vous évoquez souvent, par exemple, la différence de statut de la science, de ses buts entre Einstein et Bohr, par exemple. Mais, par exemple, du côté du grand public, on peut imaginer que si on demandait aux gens ici, la science a pour but de rendre compte du vrai, en tout cas du vrai tel qu'il se manifeste dans le réel, et peut-être aussi, autre critère qui est peut-être faux, hein, du vrai, mais que vous reprochez régulièrement dans vos travaux, qui est que la science serait une activité pratique et utile. Donc ce qui suppose peut-être qu'on interroge la science avant d'interroger le réel.
Oui, alors quand on dit que le réel c'est la vérité, ça pose la question de savoir de quel réel on parle. Or, il y a un réel qui est mensonger. Par exemple, c'est le réel tel que nous le renvoient nos sens, la perception, l'observation. Par exemple, les lois que nous tirons de l'observation directe sont en général fausses. Par exemple, l'observation de la chute des corps nous montre, lorsqu'on laisse tomber des objets de masse différente, que les plus massifs tombent plus vite que les plus légers. Et donc, l'observation de ce phénomène nous fait, à partir d'elle, inférer une loi qui est que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus massifs, et cette loi est fausse. Et donc, ça c'est une grande remarque de Bachelard, faire de la physique, c'est accepter de penser contre son cerveau, c'est-à-dire accepter de remettre en cause des notions qui nous paraissent évidentes ou familières, ou habituelles, sous prétexte que précisément elles nous sont habituelles. Et ça invite donc à porter un regard critique sur les phénomènes que nous pouvons observer. Wittgenstein, grand philosophe, a dit cette phrase que je trouve étonnante. C'est un fait étrange. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Et donc ça pose la question de ce que fait notre cerveau dans le rapport que nous avons avec la réalité. Est-ce qu'il y a une part de projection? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des structures cognitives dans notre cerveau que nous projetons sur le réel et nous lui attribuons donc des propriétés qu'il n'a pas en propre, parce que ce sont des propriétés qui viennent de nous en partie, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est le réel extérieur qui s'imprime de façon assez directe sur notre cerveau, avec évidemment des allers-retours, des corrections progressives, de sorte qu'à la fin, on finit par découvrir les vraies lois de la réalité. Bon, ça, c'est des débats passionnants qui mobilisent les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance, c'est en gros expliquer comment ce qui n'est pas moi, par exemple une bouteille, voilà, cette bouteille n'est pas moi, elle a des propriétés qui lui sont propres par définition. Donc vous voyez qu'en disant cela, j'invoque une séparation entre l'objet que je veux comprendre et le sujet que je suis. Il y a une séparation. Si j'identifie les deux choses, la notion même de théorie de la connaissance n'a plus de sens. Donc j'ai un objet qui est en soi, qui n'est pas moi. Et comment moi puis-je connaître cet objet qui n'est pas moi ? Et donc, en général, on invoque des structures opératoires qui permettent de faire la transition. Et tous les débats portent sur la question de savoir si ces structures opératoires appartiennent au sujet. Est-ce qu'elles appartiennent à l'objet ? Est-ce qu'elles sont entre les deux ? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre ? Enfin, avec cette classification, vous pouvez à peu près recouvrir tout le spectre des théories de la connaissance. Mais puisque dans le résumé que vous avez proposé pour cette discussion, on parle de mécanique quantique, il y a eu cette semaine un article dans Nature absolument incroyable qui vient clore un débat qui a démarré en 1935. Donc il a fallu 80 ans pour régler une question à propos du réel en physique quantique précisément. Alors je ne crois pas que j'ai le temps ni les moyens d'expliquer tout ça, mais peut-être donner quelques indications quand même. Les créateurs de la physique moderne, c'est-à-dire Galilée, Descartes et quelques autres, sont des gens qui, pour ce qui est de la physique, adhéraient à ce qu'on pourrait appeler un mécanicisme. Ils pensaient qu'on pouvait décrire tous les éléments de réalité avec des concepts comme celui de position, de figure, de mouvement. Et avec ça, on peut décrire le monde. Et d'ailleurs, cette façon de parler, c'est celle que nous utilisons pour décrire les objets. Aujourd'hui encore, on parle des choses en termes mécanicistes. Ensuite est apparu le XXe siècle, qui a démarré fort en matière de physique, avec la théorie de la relativité, les deux théories de la relativité, la physique quantique. Et ce qu'on a vite compris, c'est que ce mécanicisme qui a présidé à la naissance de la physique moderne, il ne marche pas. Autrement dit, pour comprendre le réel, il ne faut pas s'appuyer sur des concepts familiers, ni même sur des concepts qui nous sont devenus familiers. Il faut en passer par des concepts beaucoup plus abstraits, comme ceux qu'on trouve dans la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Il faut accepter des formules universelles mathématiques comme E égale MC2, dont on ne voit pas tout de suite à quoi elles correspondent. Bref, ce mécanicisme initial a été remplacé par ce que certains appellent l'einsteinisme, du nom d'Einstein, c'est-à-dire l'idée qu'on peut comprendre le réel non pas à partir des concepts familiers, mais à partir de concepts mathématiques abstraits qui, bien agencés dans une théorie, nous permettent de comprendre presque par bijection le réel. C'est-à-dire, c'est l'idée que les concepts qui sont dans la théorie doivent avoir une contrepartie dans le réel. Et tout ce qui est dans le réel doit avoir une contrepartie dans la théorie. Si ça n'est pas le cas, la théorie en question sera dite incomplète, puisqu'il lui manquera des éléments de réalité. Donc cet einsteinisme, qui je pense a été revendiqué par beaucoup de physiciens, a été mis en crise par la physique quantique. Parce qu'Einstein, en 1935, avec deux collègues, alors qu'il était aux États-Unis, qui s'appellent Rosen et Podolsky, écrit un papier absolument incroyable, de 4 pages, qui d'ailleurs va faire la une du New York Times. Le New York Times fait sa une sur ces papiers d'Einstein, dans lequel Einstein pose la question suivante. Est-ce que la physique quantique peut être considérée comme complète? Et à l'issue de cet article de 4 pages, il répond non. Alors, c'est un article assez puissant, difficile à résumer, mais en gros, Einstein montre que si la physique quantique reste comme elle est, alors elle ne pourra pas satisfaire à des critères de réalité élémentaire. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je dois rappeler qu'en physique quantique, le principe de base qu'on utilise, c'est le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on dit qu'un système physique, s'il peut être dans un état physique A ou bien dans un état physique B, il peut aussi être dans l'état A plus B. C'est-à-dire qu'on peut ajouter les états. Par exemple, un électron, il peut être dans l'état A, c'est-à-dire à cette position, celle que j'indique ici. Il peut aussi être à l'état B, cette autre position. Et bien, s'il peut être en A ou bien en B, la physique quantique vous dit que vous pouvez préparer des électrons qui seront dans l'état A plus B. A plus B. Ça veut dire quoi, A plus B? Eh bien, c'est tout le problème. Ce que dit la physique quantique ordinaire, orthodoxe, comme on dit, c'est que si vous faites une mesure de la position d'un électron qui est dans l'état A plus B, il y a une chance sur deux que vous trouviez A, et il y a une chance sur deux que vous trouviez B. Mais si vous êtes un physicien classique, vous concevrez qu'une mesure faite sur un système est une opération passive, une opération neutre. Faire une mesure, pour un physicien classique, c'est enregistrer une propriété qui est déjà là. C'est une sténographie du réel. De sorte que la mesure ne modifie en rien l'objet qui est mesuré. Et donc, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand l'état est A plus B, si je trouve A, il y a une chance sur deux que je trouve A. Admettons que je fasse la mesure, je trouve A. J'en déduis, si je suis un physicien classique, que la particule que je trouve dans cette position y était déjà immédiatement avant que j'ai fait la mesure. Or, avant la mesure, quel était l'état de la particule d'après la mécanique quantique? C'était pas A, c'était A plus B. Et donc, Einstein dit, il manque quelque chose à la théorie. Si j'ai trouvé A, la théorie aurait dû me dire que ce serait A. Si elle était capable de me le dire, si elle ne me renvoie qu'à des probabilités de trouver tel ou tel résultat, c'est qu'il lui manque des informations. C'est ce qu'on appelle des variables cachées. Et donc, il dit, la physique quantique telle qu'elle est ne satisfait pas aux critères de réalité élémentaire, et etc. Et puis surtout, il met en scène une situation qu'on appelle EPR, du nom des trois initiales des trois auteurs de l'article, paradoxe EPR. Il montre que si la physique quantique a raison, quand on a affaire à deux particules qui s'éloignent l'une des autres jusqu'à des distances aussi grandes que l'on veut, ces particules peuvent être intriquées d'une façon telle que, faisant une mesure sur l'une d'entre elles, ça modifie instantanément les propriétés de l'autre qui est située éventuellement à des milliards d'années-lumière de la première. Comme s'il y avait une information qui se transmettait instantanément, c'est-à-dire plus vite que la lumière. Et donc ça lui paraît scandaleux. Et cette expérience de pensée lui sert d'argument pour dire que la physique quantique est incomplète. Il lui manque des informations. Alors comme je vois à vos têtes que je ne suis pas clair, je vais prendre une analogie peut-être plus simple à comprendre. Imaginez que j'ai deux cartes, une qui est, disons, bleue, l'autre qui est rouge. Je mets chacune de ces deux cartes dans deux enveloppes différentes que je scelle. Je les mélange, et donc je ne sais plus où j'ai mis la carte rouge et où j'ai mis la carte bleue. La première enveloppe, je la donne à Paul. La seconde enveloppe, je la donne à Jules. Ensuite, Paul et Jules s'éloignent l'un de l'autre. Et Paul va ouvrir son enveloppe, voir que sa carte est bleue. Et aussitôt, il saura que la carte de Jules est rouge. Est-ce qu'il existe un moyen pour Jules de savoir quelle est la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe? Oui, il suffit qu'il téléphone à Paul. Autrement dit, Jules peut avoir connaissance de la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe. Et l'explication de cette affaire est simple, c'est que c'est au moment du tri que la répartition des couleurs a été faite, et en fait, dès le tri effectué, la propriété de la carte, sa couleur, était déterminée, et c'est simplement cette corrélation initiale qui explique la corrélation entre les résultats de mesure entre Paul et Jules. Or, la physique quantique, dans le même genre de situation, vous oblige à admettre des choses plus compliquées, à savoir que c'est le fait d'ouvrir, pour Paul, son enveloppe qui détermine la couleur de sa carte. Avant, la carte était une superposition de rouge et de bleu, hein, donc indéterminée. Il ouvre son enveloppe, il voit rouge. Aussitôt, il voit rouge au sens figuré du terme. Et aussitôt, ça veut dire que l'état superposé A plus B devient A si A est la couleur rouge. Et aussitôt, sans qu'il y ait transmission d'un signal, ça vient déterminer la couleur de la carte de Jules. Donc pour Einstein, ça c'est absolument impossible à concevoir. C'est l'idée qu'il y aurait donc propagation de signaux plus rapide que la lumière. C'est une sorte de scandale qui est suffisant pour qu'il remette en cause la complétude de la physique quantique. Non pas sa vérité. Sa complétude, il ne dit pas qu'elle est fausse. Il dit que c'est une étape intermédiaire et qu'il faudra un jour la compléter par des variables cachées qui rétabliront un critère de réalité classique et qui en même temps rétabliront le déterminisme. On n'aura plus besoin d'avoir affaire à des probabilités. Et cet article a été lu par tous les physiciens de l'époque, notamment par Niels Bohr, qui a répondu 4 semaines plus tard, un texte très confus dans lequel il pose la même question. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est le même titre que celui de PR. Est-ce que la physique quantique peut être considérée comme complète? Et Bohr répond oui. Oui, pourquoi? Parce que la propriété d'un objet réel n'est pas une propriété qu'il possède en propre. C'est une propriété qui est partagée entre l'objet et l'appareil de mesure qui mesure cette propriété. Par exemple, la vitesse d'une particule n'est pas une propriété des particules. C'est une propriété partagée entre l'objet et l'instrument de mesure, qui est une notion très, très difficile à comprendre. Ça veut dire que l'objet et le sujet s'entremêlent ou entremêlent leur rôle dans l'opération de mesure. Donc, voilà, c'est le début d'un débat, 1935, qui a au départ pas vraiment passionné les physiciens parce qu'ils pensaient que c'était un débat métaphysique, à tous les sens du terme. C'était au-delà de la physique, et c'était également métaphysique par le fait que qu'on adhère à la position d'Einstein ou qu'on adhère à la position de Bohr, ça ne changeait pas la façon d'utiliser les équations. C'est simplement leur interprétation qui était différente. Bon, et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, des physiciens ont commencé à revenir sur ce problème, et notamment un physicien irlandais qui s'appelle John Bell, en 1964. Il était physicien au CERN, il a pris une année sabbatique pour réfléchir à ces questions, et il a pu montrer, par un papier incroyable, que selon qu'on adhère à la position de Bohr, la mécanique quantique est complète, ou selon qu'on adhère à la position d'Einstein, la mécanique quantique est incomplète, eh bien, dans certaines situations, les prédictions que l'on fait dans une expérience de pensée qui va devenir plus tard une expérience réelle ne seront pas identiques. Et donc ce débat qui au départ a été métaphysique, philosophique, va devenir une question qu'une expérience de laboratoire va pouvoir trancher.
Ce serait une sorte de complémentarité alors? On pourrait relancer le débat de la complémentarité à ce niveau-là?
Si on veut, c'est-à-dire que ce que montre Bell, c'est que si la mécanique quantique est complète, alors entre les deux particules dont je parlais tout à l'heure qui s'éloignent, il y a une sorte d'intrication, une corrélation très forte, qui est beaucoup plus forte que toutes les corrélations classiques qu'on puisse imaginer. Et donc, il suffit de faire l'expérience. Et l'expérience, on va la faire. Il y a plusieurs équipes qui vont s'atteler à cette tâche. La première qui va réussir, c'est l'équipe d'Alain Aspect en 1981 à l'Institut d'optique à Orsay. Moi, j'étais étudiant à l'époque et je me souviens que pratiquement la vie de l'école dans laquelle j'étais s'est arrêtée quand le journal Le Monde a publié en première page les résultats de l'expérience d'Aspect. On n'y comprenait rien. On a demandé à nos profs de nous expliquer. Ils n'y comprenaient rien. Et donc, ils n'étaient même pas au courant. Et donc, pendant 15 jours, avec d'autres étudiants, on a fait des recherches. Et finalement, c'est nous qui avons fait le cours sur ce phénomène qu'on appelle la non-séparabilité quantique. Parce que qu'est-ce qu'a montré l'expérience? C'est que c'est la physique quantique qui a raison. et qu'on ne peut donc pas espérer la compléter par des variables cachées supplémentaires qui seraient locales. Bon, je vais pas introduire trop de termes techniques. Ça, c'est 1981. Donc, en gros, depuis 1981, on pense qu'il est impossible d'interpréter, parce que l'expérience le contredit, la mécanique quantique dans le cadre des idées d'Einstein. Non, parce que c'est Einstein qui a posé les bonnes questions. C'est lui qui a vu que la mécanique quantique obligeait à admettre des choses absolument incroyables. Bon, simplement, depuis cette époque, il y a des physiciens einsteiniens qui disent que l'expérience d'aspect n'est pas complètement convaincante parce qu'elle s'est faite avec des photons produits par des lasers. Et vous savez, on ne peut pas mesurer à 100% un flux de photons. On ne peut pas mesurer la polarisation des photons avec une efficacité de 100%. En gros, on en mesure quelques dizaines de pourcents maximum. C'est vrai qu'il y a des photons qu'on ne mesure pas. Or, on peut imaginer que les photons qu'on mesure ne se comportent pas comme les photons qu'on ne mesure pas. Et donc, il y a une sorte de biais qui aurait trompé l'interprétation de l'expérience. Et donc, ça, c'est un problème qu'on discute depuis très longtemps. Et il se trouve que cette semaine a été publié dans Nature un papier extraordinaire qui a été rédigé par une équipe de physiciens hollandais à l'université de Delft. Et ils ont montré que cette dernière possibilité de sauver l'einsteinisme à propos de la mécanique quantique n'existait plus. Ils ont fermé toutes les portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité, c'est même pas la peine d'essayer, d'espérer compléter la mécanique quantique par des variables cachées locales. Il reste la possibilité de la compléter par des variables cachées non locales. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, il me faudrait un tableau, etc. Je ne veux pas trop simplifier non plus, juste clarifier. Mais simplement, c'est une histoire que je trouve extraordinaire parce qu'elle montre que certains résultats de la physique, quand on les prend au sérieux, sont capables de produire des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, non pas de remplacer la philosophie, mais à propos d'une question philosophique particulière, de venir contraindre ou éclairer les réponses philosophiques qu'on peut lui accorder. Ce que montre cette histoire, c'est que Einstein qui se posait la question, est-ce que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expérience pour comprendre le réel ? Est-ce que mon cerveau n'est pas capable d'inventer librement les concepts qui permettront de décrire la réalité ? Et donc Einstein partait d'une réalité ou d'un réel qui avait des attributs nécessaires. Et le critère de réalité qu'il a utilisé dans l'article de 35 établit la liste de ces critères. Et bien ce qu'a montré l'expérience, c'est que ces critères de bon sens, parce que le critère de réalité d'Einstein, c'est un critère de bon sens, et bien ces critères n'existent pas dans le réel. Et donc si on prend au sérieux l'histoire que je vous ai racontée, on doit avoir vis-à-vis du réel un regard, disons, énigmatique. Parce que pour résumer les choses, imaginez que vous soyez dans une bibliothèque publique et vous voyez dans les rayonnages un livre que vous avez envie d'emprunter. Donc vous notez les références de l'ouvrage, vous allez vers la sortie pour rencontrer le bibliothécaire et vous lui dites « Voilà, je voudrais emprunter le livre dont les références sont celles-ci. » Le bibliothécaire consulte le catalogue et voit que les références que vous lui avez indiquées n'y sont pas. Si vous êtes Einstein, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, le catalogue de la bibliothèque est incomplet. Il y a un élément de réalité que j'ai vu dans les rayonnages qui n'est pas référencé dans le catalogue. Il est donc incomplet. Si vous êtes Niels Bohr, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez vous excuser auprès du bibliothécaire en lui disant, écoutez, excusez-moi, j'ai eu une hallucination. J'ai cru à l'existence d'un livre qui n'existe pas puisque la référence, c'est le catalogue. Voilà. Vous voyez que ça change complètement le statut qu'on accorde à la fois à la réalité et surtout au formalisme mathématique par lequel on essaie de le décrire.
Mais ce qui ce qui est très séduisant dans l'incompréhension qu'on a, par exemple, de la physique quantique, c'est justement le fait que ça, vous le dites souvent, que ça heurte le sens commun. Par exemple, vous évoquiez le fait qu'une loi juridique, elle doit être assez proche dans un de vos ouvrages du sens commun pour ne pas heurter, ce qui n'est pas le cas des lois physiques. Donc c'est ce que vous rappelez, effectivement, il y a une barrière qui se pose devant le sens commun pour appréhender ce type de concept. Mais bon, par exemple, personnellement, moi j'ai toujours eu du mal... simplement, vous voyez, avec le sens commun, à comprendre ce qui semblait régler des problèmes, qui est par exemple la théorie de la décohérence, qui semblerait ramener vers le sens commun. On se débarrasse enfin du paradoxe, par exemple, du chat de Schrödinger, mais même la résolution, pour moi, semble heurter le sens commun. Et vous ne pensez pas que, justement, cette difficulté, elle est dans la façon de penser des gens, tout simplement, à appréhender elle-même, difficilement les concepts de la physique quantique?
Alors, je suis d'accord avec vous, mais je ferai juste une petite précision. Je pense que la physique moderne tout entière heurte le sens commun. Je vois qu'il y a des lycéens dans la salle. Je les mets au défi de trouver une loi physique qu'ils apprennent au lycée qui ne contredise pas le sens commun ou l'observation directe. Le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne et uniforme. Qui a jamais vu ça ? Prenez d'autres exemples. Vous n'avez jamais vu des lois physiques s'exprimer directement dans l'expérience. Par contre, la physique classique, à la différence de la physique quantique, peut être dite grâce à des concepts familiers, concepts de vitesse, de force, de puissance, etc., de forme, etc. Donc on arrive à la dire avec des concepts familiers, bien que ces lois contredisent le sens commun. Alexandre Coiré, grand philosophe des sciences, disait que depuis Galilée, le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire expliquer ce que nous voyons grâce à des lois physiques qui contredisent ce que nous voyons. En tout cas, qui oblige à porter un regard critique sur l'observation. Parce que si les lois sont justes, je dis juste et pas vrai pour... faire preuve de modestie, si les lois sont justes, alors il doit exister un moyen dans le réel d'éprouver leur justesse. Mais ça conduit à réinterpréter les observations, parfois de façon radicale, pour comprendre comment une loi qui contredit l'observation peut en même temps l'expliquer. Je vous donne un exemple, puisque c'est les 100 ans de la relativité générale. Ben, vous savez que l'expansion de l'univers a été découverte notamment par Edwin Hubble, astronome qui a observé ce qu'il appelait la fuite des galaxies, décalage vers le rouge des fréquences. Donc en apparence, les galaxies se fuient les unes les autres dans l'espace à une vitesse qui est d'autant plus grande que leur distance mutuelle est plus grande. Et lui interprétait cela comme étant une fuite dans l'espace. C'est-à-dire l'espace était stationnaire et les galaxies se déplaçaient dans l'espace. Et un autre physicien, l'abbé Lemaître, chanoine, belge, connaissant parfaitement les équations d'Einstein et de la gravitation, réinterprète ces données, ces observations, ces résultats d'observation, dans le cadre des équations d'Einstein. Et il dit, mais non, les galaxies, en fait, ne bougent pas. Contrairement à ce qu'on voit, les galaxies ne bougent pas. Alors, comment expliquer qu'on voit qu'elles bougent ? En disant qu'elles sont immobiles dans un espace-temps qui se dilate. Autrement dit, si la distance entre les galaxies augmente, c'est non pas parce qu'elles se déplacent les unes par rapport aux autres dans l'espace, c'est parce que l'espace qui les sépare se dilate. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler l'expansion de l'univers. Et donc, vous voyez, je pense que qu'on ait affaire à la physique classique ou quantique ou relativiste, on est constamment invité à se méfier des observations et surtout à se méfier des inférences qu'on pourrait tirer à partir d'elles pour fabriquer des lois physiques. Parce que si on fait ça de façon trop intense, on refait Aristote. Aristote explique tout ce qu'on observe par des causes finales et donc tout a un sens parce que tout est dirigé vers une finalité. Si vous observez que sur le melon, il y a des marques, traçant des angles à peu près réguliers, pas complètement égaux. C'est pour aider les pères de famille à couper le melon en parts à peu près égales pour les enfants de la famille. Voilà, ça c'est Aristote. D'accord. Or, les physiciens, depuis Galilée, se refusent à utiliser des causes finales. On n'a pas le droit d'expliquer un phénomène par sa finalité. Et ça change évidemment tout le rapport que nous avons avec l'observation.
J'ai l'impression, à vous écouter, que l'histoire de la physique, c'est justement une perte de l'absolu. On part de la cause finale d'Aristote, puis on perd l'espace-temps absolu chez Newton. Et puis, en même temps, par exemple, les supercordes me paraissent esthétiques et poétiques. Vous évoquez souvent dans vos ouvrages la valeur de métaphores comme noir, dans l'énergie noire, la matière noire, qui n'est pas noire d'ailleurs, vous le dites. Et comment se fait-il que l'élan de la physique soit justement de perdre de la certitude et gagner en justesse tout en cultivant une certaine forme de poésie que vous évoquez souvent dans vos ouvrages?
Bon, la poésie, je l'évoque rarement. Par contre, je cite parfois des poètes, ce qui n'est pas la même chose. Je n'ai pas de commentaire sur la poésie. Mais j'aime bien parfois trouver dans la poésie une résonance par rapport à des choses qu'on pourrait dire de façon scientifique, mais de façon beaucoup plus sèche et laborieuse.
Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous donnez de la place dans un système scientifique, avec ses exigences de science, à la valeur de métaphores comme le noir, le prédicat noir qu'on retrouve souvent.
Absolument, parce que souvent les scientifiques, ils parlent, ils veulent être objectifs, et donc ils ont l'impression que pour que l'objectivité de leur discours soit perceptible, il faut qu'ils se mettent eux-mêmes en dehors du discours. Ils seraient une sorte de lieu de passage de la vérité. Ils transformaient leur connaissance en langage, produisant ainsi une langue qu'on pourrait qualifier de dénotative. C'est-à-dire, on dit ce qui est. Mais les langues qui nous parlent, c'est les langues connotatives, c'est-à-dire qui connotent ce que nous savons vrai par toutes sortes de considérations qui font que ce langage nous parle. Et donc, je dirais, moi, que dans le spectre du langage, les mathématiques et la poésie occupent les deux positions extrêmes. C'est-à-dire, la poésie, c'est le travail d'une langue particulière. Bon, les grands poètes, en général, écrivent dans leur langue maternelle. Et au lieu de s'en extraire pour gagner de l'objectivité, ils vont creuser la singularité de cette langue pour accéder à une forme d'universel. La grande poésie, elle est le résultat du travail d'une langue. Mais en fait, elle dit des choses qu'on peut ensuite dire dans toutes les langues. Donc elle atteint une sorte d'universalité par le travail de sa singularité. Alors que les mathématiques, c'est l'inverse. Les mathématiques atteignent l'universel par l'éradication du langage, par un pur formalisme qui essaie d'éradiquer autant que se faire se peut le langage. Et je pense que quand on veut expliquer la physique au public, il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire il faut établir une sorte de balancier entre la rigueur formelle et puis les évocations que le langage qu'on utilise permet de susciter.
Alors, du singulier à l'universel, vous évoquiez tout à l'heure la puissance de la conscience à appréhender ou à louper le réel, peut-être. Dans un de vos ouvrages, vous parlez, je crois que c'est Pauli qui avait comme analyste Jung, et qui a fait un travail tout à fait étonnant. Dans quelle mesure le domaine privé, vous évoquez aussi Jean Cavaillès, par exemple, son engagement qui est logique. Dans quelle mesure Majorana aussi.
Vous avez tout lu.
Oui.
c'est lui qui achète mes livres.
dans quelle mesure la science, qui se nourrit donc de choix privés, d'intentions, mais qui s'en débarrasse pour avoir un contenu objectif, universel, dans quelle mesure s'effectue le passage entre ce que j'appellerais la science privée jusqu'à la science publique? Par exemple, Gödel délirait dans certains domaines de son travail, et pourtant il y a une partie de ce travail qui est dépendante de sa subjectivité, qui est recevable par la science publique. Alors, comment expliquez-vous, chez Einstein c'est vrai aussi, comment, et souvent Schrödinger, vous faites des plages très drôles sur la sexualité de Schrödinger, comment effectue-t-on ce passage entre toutes les impressions subjectives qui vont conduire à un travail et la réception publique objective de ce travail?
Très vaste question, mais très bonne question. Bon, moi, la période que je connais un peu, la période historique que je connais, c'est la naissance de la mécanique quantique. Donc, les années 1923 jusqu'à, disons, 1932, découverte du neutron, naissance de la physique nucléaire. C'est là que la physique quantique se met sur pied. Et il se trouve qu'à cette époque, j'ai pas peur du mot, il y a eu des génies, quoi. Des génies. Alors, un génie, c'est pas un bon élève, c'est pas un type qui... C'est pas un type qui répète des méthodes qu'il a apprises à l'école. C'est un génie, c'est-à-dire il invente des trucs. Parfois il est fou, parfois il délire, mais il n'est pas dans le champ. Bon. Et donc les découvertes dont on parle là sont des découvertes qui sont toutes nées de la singularité d'un individu. Donc on pourrait dire d'une forme de subjectivité radicale. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les uns et les autres se critiquent. Donc quand Dirac, Paul Dirac, qui va prédire l'existence de l'antimatière, invoque ce qu'on appelle la mère de Dirac, c'est des particules d'énergie négative, mais tous lui tombent dessus en disant c'est du délire, c'est leur subjectivité qui parle. Et quand Dirac se défend, c'est sa subjectivité qui parle. Donc moi, je pense que les sociologues des sciences ont raison de dire que les idées viennent toujours dans un contexte particulier, culturel, historique, politique parfois, qu'elles sont imprégnées, parfois massivement, de la subjectivité de leurs auteurs. Et si la science n'est objective que parce que les physiciens sont objectifs, évidemment, il faut lui dire adieu. Il faut dire adieu à l'objectivité. Donc l'objectivité de la science ne vient pas de l'objectivité des scientifiques. Je ne connais pas un scientifique objectif. Ça n'existe pas. Elle vient d'un travail critique dans une ambiance que Karl Popper appelait de mutuellement hostilement amical, ça veut dire on s'écoute mais on se critique, et c'est ce travail qui fait que à la fin on produit de l'objectivation. Voilà. Et donc ça, faire de la science, ça veut dire accepter les règles d'une communauté, ça veut dire présenter ses travaux devant des collègues, ça veut dire parfois se faire largement critiquer, insulter, faut se battre, hein. Et Einstein, il est bien placé pour, de ce point de vue-là, parce qu'il s'est beaucoup battu. J'ai appris ce matin, en lisant un livre dans le train, que quand Einstein a publié E égale MC2, donc avec l'idée que la masse d'un électron dépend de sa vitesse, c'est une des implications de la formule, il y a un expérimentateur allemand qui a fait une mesure sur des électrons, sur un petit faisceau d'électrons, il n'a vu aucune différence, et il a écrit un papier disant « la théorie d'Einstein est fausse ». Bon, à l'époque, les électrons et les accélérations étaient tellement faibles que ce phénomène ne pouvait pas s'observer. Mais Einstein était tellement sûr de lui qu'il n'a pas été affecté par ce résultat, qui pourtant avait convaincu les autres que sa théorie n'était pas juste. Donc il y a toujours une période de bagarre. Si on avait fait voter les physiciens en 1905 pour ou contre la théorie de la relativité, ils auraient massivement voté contre avec de très bons arguments.
Dans un autre domaine, vous avez Freud qui n'a jamais lui aussi douté de la validité de ses analyses.
Les psychanalystes... Bon, non, je ne vais pas faire de commentaires.
Pourtant, d'autres l'ont fait. Pauli l'a fait.
Oui, non, Pauli, il a une correspondance incroyable qui a duré 40 ans. Avec Jung. Il habitait Zurich, comme Jung. Et c'était l'époque où Paoli allait très très mal. Il avait épousé une jeune femme, une danseuse magnifique. Et cette dame, qui était donc son épouse, l'avait quitté au bout de 6 mois de mariage pour un chimiste. Et pour un physicien théoricien, ça c'est quand même très très dur. En plus, il s'appelait Goldfinger, ce qui est tout un programme. Et il a fait une dépression, il est devenu alcoolique. On l'a même vu se battre dans des bars louches de Zurich. Et c'est là qu'il a fait l'hypothèse du neutrino, d'ailleurs. Donc, mais son père, qui s'inquiétait pour sa santé, l'a supplié de commencer une psychanalyse avec Jung. Et il a échangé des lettres, il l'a rencontré même. Et Jung a interprété 400 rêves de Paoli. Et Paoli voulait comprendre, à partir de sa propre expérience, les mécanismes de la création d'une idée. Comment ça marche, le cerveau, pour créer une idée. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Et on voit que ce monsieur, qui était d'apparence très rigoriste, hein, il était, ses collègues l'appelaient le fouet de Dieu, le fouet de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un physicien énonçait une idée ou faisait une hypothèse qui ne plaisait pas à Pauli, Pauli se fâchait. Il s'est d'ailleurs beaucoup trompé d'ailleurs dans les accusations qu'il a pu faire. Donc il faisait peur à tout le monde parce qu'il était l'incarnation de la rigueur. Mais quand on lit ses lettres à Jung, on voit qu'il était complètement délirant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il était dans l'irrationnel. D'ailleurs, il a écrit un livre sur Kepler pour montrer comment Kepler lui aussi s'est laissé féconder par des pensées irrationnelles, par un imaginaire débordant. Et c'est la combinaison des deux qui fait que la science avance. C'est, si vous restez dans les ritournelles du passé, vous n'inventez pas. Il faut donc féconder tout cela par de l'imaginaire et ensuite, évidemment, l'éprouver à l'expérience. Mais la naissance de la physique quantique est quelque chose de... Ben, plus je travaille cette période, plus je pense que c'est miraculeux. C'est-à-dire, plus j'étudie les textes, les articles de ces gens, plus je lis leurs correspondances et moins je comprends comment ils ont pu faire en si peu d'années avec des informations venant de l'expérience très, très, très pauvre. J'ai visité il y a quelques jours le laboratoire de Fermi à Rome, là où est née la physique nucléaire. C'est vraiment rien, c'est un petit champ magnétique, c'est quelques bobines, c'est très peu de matériel. Et avec ça, ils ont fait la physique quantique. Et c'est quand même une leçon, puisque c'est là que l'Europe... ils étaient tous européens, a, je pense, accompli le meilleur d'elle-même sur le plan intellectuel, en même temps que le pire sur le plan politique. Bon, je pense que vous comprenez l'allusion.
La physique quantique, c'est vrai, a bousculé des concepts qui font partie de l'héritage scientifique, comme l'interaction, le déterminisme, même si elle ne contredit pas fondamentalement le déterminisme. Mais est-ce que vous pensez que même si les concepts sont sainement bousculés à travers chaque révolution scientifique, il y a des espèces de repères constants qui sont par exemple le temps, le mouvement, le continu qui, quelle que soit la définition qu'on en donne, rythme quand même l'avancée de la science?
Vous voulez dire qu'il y a des concepts qui sont constamment discutés, c'est ça?
Bah, par exemple, vous évoquez dans un article le fait que le temps est discuté par des gens comme Poincaré ou Einstein, mais le temps demeure. On peut s'interroger sur la nature du temps. Est-ce qu'il est absolu? Est-ce qu'on peut parler de temps subjectif? Mais ça ne remettra pas en cause le fait que le concept de temps demeure pertinent en science.
Oui, alors sur le temps, moi j'ai pas mal travaillé sur le temps en effet. Mais je partais de l'idée que dès lors que notre langage quotidien, s'agissant du temps, est très ambivalent et même contradictoire, il y a des expressions que nous utilisons qui contiennent le mot « temps » qui se contredisent mutuellement. Donc le temps est victime d'une polysémie qui est exagérée. Il sert à dire toutes sortes d'autres choses que le temps. Et que donc, si on veut penser le temps pour ce qu'il est, il faut critiquer le langage. Mais à partir de quoi critiquer le langage ? Je m'étais dit, tiens, à partir des équations de la physique, celles de la physique classique, celles de la relativité, celles de la mécanique quantique, c'est-à-dire on essaie d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Bon. Mais récemment, j'ai eu un petit choc en me posant la question suivante. Vous savez que le premier qui a introduit la variable temps dans un formalisme, c'est Newton. Les équations de la mécanique contiennent le paramètre t, que Newton définit comme le temps vrai, par opposition au temps vulgaire, dit-il, qui s'appelle la durée. Or, ce paramètre T, qui est dans les équations de la physique, est un paramètre qui désigne un temps qui n'a aucune des propriétés que le langage commun attribue au temps. Autrement dit, c'est un paramètre qui ne ressemble pas à ce que nous disons du temps. Par exemple, souvent, nous identifions le temps au changement. Ben, Newton nous dit non, le temps est la seule chose qui ne change pas au cours du temps. Voilà. Le temps ne change pas au cours du temps, sa façon d'être le temps. C'est pour ça que le temps est homogène. Et c'est pour ça que lorsque vous écrivez une équation, le paramètre T ne dépend pas de T. Incroyable. paramètre T ne dépend pas de T. Donc ce temps-là ne ressemble pas à ce que nous disons du temps. D'où la question que je ne m'étais jamais posée, et depuis que je me la pose, je cherche la réponse sans la trouver, c'est d'où vient que Newton a appelé cette variable T le temps ? D'où ça vient ? Pourquoi il ne l'a pas appelé truc ? Il aurait l'appelé truc. J'ai introduit la variable truc qui ne fait que traduire l'invariance des lois physiques. Les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps, et c'est ce que traduit le caractère homogène de la variable T. Il l'a appelé temps, et du coup, les physiciens dont je fais partie pensent que la physique dit plus la vérité du temps que le langage. Mais au départ, il y a pourquoi il l'a appelé temps. Voilà. Donc je suis en plein doute et je me demande si on a encore raison d'inviter des physiciens à parler du temps, parce que il y a là une sorte d'événement historique qui faudrait davantage éclaircir. Ça vaut aussi pour la théorie des cordes dont vous parlez. Quand vous écrivez des équations, ou quand vous écrivez une nouvelle théorie physique, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette variable ou cette chose mathématique que vous introduisez dans la théorie, c'est le temps? Par exemple, si vous voyez une variable qui est discontinue, et si vous pensez que le temps est continu, vous direz que cette variable n'est pas le temps. Autrement dit, la façon de nommer le temps dans un formalisme mathématique, de dire c'est le temps, dépend de votre conception préalable du temps. C'est comme si pour découvrir le temps, il fallait déjà le connaître. Et ce genre de paradoxe, si vous voulez, fait que si j'avais à réécrire mes livres sur le temps, je les ferais précéder par un petit préambule qui expliquerait ça.
Alors, vous dites aussi que la science est portée dès ses débuts, avant même qu'elle se pense comme science, par la nécessité d'unifier le réel, ou en tout cas l'approche. Par exemple, vous évoquez les présocratiques qui, l'un ou l'autre, prenaient comme principe de base l'eau, la terre, l'air, le feu. Et est-ce que vous pensez que, quels que soient les changements au fil des siècles, la science continuera toujours de rechercher cette unification, cette recherche de solutions simple ou en tout cas clair?
Alors, je ne connais pas l'avenir. Hein. Je sais qu'on parle beaucoup d'avenir ici, mais moi, je ne le connais pas. Simplement, c'est vrai que les présocratiques pensaient unifier le réel en identifiant l'élément fondamental dont tous les autres dérivent. C'était l'eau, la terre, le feu, etc. Et ils expliquaient les métamorphoses et comment un élément unique pouvait engendrer tous les autres. Aristote prend la quaternité, ajoute la quintessence, bref, il y a une unification ontologique. Aujourd'hui, en physique, on a plutôt eu affaire à une unification législative. C'est les lois qui unifient.
Il y a cette volonté aussi, toujours de chercher une unification, un tout.
On est obligé de considérer que la diversité incroyable de la réalité, si elle est intelligible, doit pouvoir s'exprimer sous une forme plus économique que les différentes manifestations qu'elle peut engendrer. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la physique, ce qu'on appelle une grande découverte, c'est toujours une unification, soit entre lois différentes, soit entre concepts différents. Pensez, je ne sais pas moi, Newton qui unifie les lois de la mécanique céleste et la chute des corps. Pensez à Maxwell qui unifie l'électricité et le magnétisme. Pensez à Einstein avec E égale MC2. Pensez à De Broglie avec la dualité en corpuscule. C'est toujours des unifications. Mais quand on raconte cette histoire, on oublie toujours de raconter l'histoire des unifications qui ont échoué. C'est-à-dire, le désir d'unifier peut être tellement fort qu'il va provoquer des fusions qui ne sont pas pertinentes. Et donc, il y a énormément de tentatives d'unification qui ont échoué, qui étaient belles sur le papier et qui n'ont pas résisté à l'expérience. Quand j'étais étudiant, on parlait beaucoup d'une théorie d'unification qui s'appelait SU5, groupe de symétrie pour unifier les interactions fondamentales. C'était magnifique, magnifique. Et puis en fait, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, la supersymétrie, qui est une étape vers l'unification des interactions, séduisante, magnifique, Au LHC, la machine du CERN qui fonctionne actuellement, on ne voit aucune particule supersymétrique. Ça ne veut pas dire que la supersymétrie soit fausse, mais disons qu'elle est mise en péril par le fait que la nature, pour ce qui est des données recueillies à ce jour, ne semble pas la cautionner. Et donc, pour répondre à votre question plus précisément, je fais simplement remarquer que les théoriciens vont bien au-delà de l'expérience dans leurs prédictions. Par exemple, la théorie des cordes, elle s'engage à des niveaux d'énergie qui sont bien plus élevés que l'énergie qu'on peut donner aux protons du LHC. Donc on a des modèles théoriques qui unifient beaucoup plus que ce que l'expérience permet de tester. Et le LHC, c'est quand même une grosse machine, c'est 27 km de circonférence. On a le projet d'une machine de 100 km de circonférence qui donnera aux protons à peu près 10 fois plus d'énergie que celle qu'ont les protons du LHC, mais ça fait gagner qu'un facteur 10. Et donc le risque qu'il y a, c'est que nous ne pouvions pas tester dans le futur toutes les théories qu'on a été capable de bâtir pour unifier les interactions. Et que du coup, on en reste à des espèces de métaphysique mathématique ou à des conjectures qui ne seront pas considérées comme de véritables théories physiques puisqu'elles n'auront pas subi le test de la réalité et seront enseignées pour leur valeur esthétique ou pour je ne sais quelle autre raison, mais il me semble que la physique doit demeurer une science expérimentale et que pour cela, il faut pouvoir concevoir des expériences qui permettent de tester les théories.
Et donc, ce qui fait défaut peut-être à la physique quantique, en tout cas à la pratique de la physique quantique actuellement, c'est ce pont, cette passerelle avec une vérification expérimentale. Elle est éloignée encore ou de la vérification expérimentale?
Non, la physique quantique, elle a subi tous les tests. Bon, elle est incomplète, non pas au sens qu'Einstein donnait à ce mot, elle est incomplète pour l'instant, au sens où elle ne contient pas la gravitation. Donc elle contient trois forces sur les quatre. Et on le sait, la grande difficulté, c'est d'unifier la physique quantique qui décrit les trois autres forces avec la relativité générale qui décrit la gravitation. Mais la physique quantique, pour ce qui est de son propre champ, quand il n'y a pas de gravité qui joue dans l'affaire, elle fait des prédictions qui, toutes, même lorsqu'elles sont surprenantes, ont été cautionnées par l'expérience. Téléportation. Alors, téléportation, non pas d'objets physiques, mais d'états quantiques d'objets physiques, non-séparabilité, cryptographie quantique, tout ça, ça marche. Et la physique quantique a l'air d'être une théorie capable, non pas de décrire le réel, mais d'entrer en contact avec lui. Entrer en contact avec lui. Par exemple, j'imagine que vous avez entendu parler de la découverte du boson de Higgs en 2012. Cette particule a été prédite à partir d'arguments mathématiques dans les années 60. 48 ans plus tard, on la détecte exactement comme elle a été calculée. Ce qui a provoqué une émotion incroyable chez les chercheurs qui ont participé à ces travaux. Ça veut dire que la physique quantique, dans ce cadre-là, a permis de toucher le réel. Je ne dis pas le décrire. Je ne dis pas que la physique décrit le réel à cause des réserves que j'expliquais au début. Mais on entre en contact avec quelque chose de la réalité, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On pourrait dire la même chose du vide quantique. D'ailleurs, l'expérience du LHC, c'est une expérience qui, des premières grandes expériences qui vient interroger le vide quantique. En donnant de l'énergie à ce vide, on fait sortir les particules qui étaient un peu endormies et fatiguées dans ce vide-là, quoi. Et donc, on touche un réel qui est extrêmement lointain, ce n'est pas un réel accessible comme ça par les sens. Pour le toucher, il faut les grandes prothèses que sont l'accélérateur et les détecteurs. Et donc c'est une façon, c'est paradoxal, la physique c'est une façon de se rapprocher du réel puisqu'on le touche, et en même temps de s'en éloigner parce que les équations dont on parle sont des équations que personne ne comprend vraiment. On sait faire des calculs. Mais on ne sait pas dire en mots qui nous soient compréhensibles ce que ces calculs disent vraiment de la réalité. Et donc il y a une espèce de tension entre la proximité du réel dont on parle et puis l'éloignement de la signification qu'il a dans les théories qu'on utilise. Moi, je ne connais pas deux physiciens quantiques qui parlent de la réalité de la même façon. Quand ils parlent de leurs expériences, ils parlent du réel, comme si le réel se donnait à nous de façon claire. Et puis quand ils parlent de leurs équations, ils s'en émancipent en quelque sorte pour aller se faire voir dans d'autres espaces que l'espace réel. Et ils sont en tension comme ça entre le monde où se font les expériences, le monde à trois dimensions, avec le temps en plus, et puis les espaces vectoriels abstraits dans lesquels ils font des calculs. Donc la physique quantique, si vous voulez, c'est un formalisme par lequel la représentation des choses s'est émancipée du réel où sont les choses. Et donc on a créé une brèche entre le monde et sa représentation, et c'est dans cette brèche que viennent s'engouffrer toutes les questions d'interprétation, comme celle qui a agité Einstein et Bohr.
Alors, on dépasse un petit peu, mais je voulais juste vous poser une dernière question avant de passer le micro au public. Vous arrivez au fil de vos articles, j'aurais pu vous questionner encore pendant des heures, à transmettre votre passion pour la science et pour les scientifiques au grand public. Vous êtes scientifique, vous êtes écrivain. Votre passion pour la science, elle consiste en la beauté d'une démonstration, la beauté d'une équation, comme chez Dirac, ou c'est quelque chose de plus, je sais pas, de plus poétique, ou de. Vous êtes un passionné et vous transmettez cette passion. Mais vous la vivez comment, cette passion pour la science?
En fait, la passion pour la science me semble assez naturelle dès lors qu'on comprend que la science révèle des choses que nos sens ne peuvent pas nous révéler. Nous invite à avoir un regard critique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça me paraît assez naturel. Par contre, ce qui est pathologique, et j'assume, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Passer ses soirées ou ses week-ends à écrire, c'est de la maladie mentale. L'autre jour, j'ai donné une conférence, et en province, le libraire, à la fin de la conférence, a mis en vente tous mes bouquins. J'ai pas ça chez moi. J'ai vu tous les bouquins. J'ai dit, mais ce type est un polygraphe. Qu'est-ce que c'est que cette logorée incessante? Bon. Donc je pense que l'écriture, c'est pas vraiment un truc sain. Et en même temps, je crois que la seule façon de comprendre la science passe par le livre. Je crois pas trop aux films, je crois pas trop aux interviews. Je crois vraiment que la linéarité du livre, le fait de ne pas pouvoir faire de suivre le fil, de ne pas pouvoir aller voir ailleurs, l'obligation qu'il y a de suivre un raisonnement, par exemple, a à voir avec la science. Et le livre procure cette linéarité nécessaire. Maintenant, pour ce qui est de la passion, moi, ça a commencé par les mathématiques, hein, comme tout le monde. Je me souviens que quand j'ai vu la démonstration que quand vous prenez un triangle, vous tracez les trois hauteurs, elles se coupent en un point. Vous tracez ensuite les trois bisectrices, elles se coupent en un deuxième point. Vous prenez les trois médianes, elles se coupent en un troisième point. Et vous pouvez démontrer que ces trois points sont alignés. C'est Euler qui a démontré ça. Et l'expérience est différente pour chacun d'entre nous. Mais quand on voit qu'on peut démontrer ça, on se dit qu'il y a quelque chose de merveilleux. Donc la joie intellectuelle que ça procure, ensuite je l'ai transférée plutôt du côté de la physique. Et en l'occurrence, ça s'est passé lorsque je devais avoir 20 ans, je fais un stage d'été au CERN. On me fait descendre dans le tunnel, je vois une grosse machine, 7 km de circonférence, et un physicien, un vieux physicien à la retraite qui servait de guide, qui nous explique que cette machine sert à chauffer le vide quantique. C'est quoi ça? Et en plus, il avait cité une phrase de Blaise Pascal. C'est Blaise Pascal a écrit une lettre au Père Noël. Alors, ce n'est pas le Père Noël des sapins, hein. C'est le révérend Père Noël, qui était le principal des jésuites, à propos de l'existence du vide. Donc les jésuites niaient l'existence du vide, et Pascal disait « le vide existe », etc. Et il donne cette définition absolument incroyable, « le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Car le vide, ce n'est pas le néant, c'est pas non plus la matière, c'est une sorte de prologue de la matière C'est une intuition géniale, puisque le vide quantique, c'est exactement ça. Le vide quantique, c'est un prologue de la matière, au sens où toutes les particules de matière sont là, il leur manque simplement l'énergie qu'il leur faut avoir pour exister vraiment. Et donc, quand vous faites une collision de particules au LHC, vous déposez de l'énergie dans le vide quantique, et les particules qui manquent d'énergie avalent cette énergie et en sortent. C'est comme ça qu'on a capturé le boson de Higgs. C'est quand même beau.
Oui, vous parliez très joliment d'une ontologie dormante de la matière dans le vide qui est très jolie. Alors peut-être que l'écriture est effectivement une activité de gens pas très sains d'esprit, mais très honnêtement, j'invite le public à vous lire, parce que c'est toujours un plaisir et l'occasion de 1000 découvertes. Alors on a vraiment dépassé là, mais on a commencé en retard aussi, donc prenons le temps. Si vous avez des questions à poser... On n'a pas le temps. Oh, une question.
Le fait qu'on n'ait pas le temps est la preuve qu'il existe.
Oui, voilà. Oui. Monsieur. Là, il sera là. Un petit jeune qui lève le bras. Oh, c'est dommage, ça passe vite.
Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu aux Utopiales. Est-ce que vous pourriez nous parler des expériences à choix retardés et des implications qu'elles ont sur la nature de la réalité, s'il vous plaît ?
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise exactement? Non, c'est des expériences qui étaient des expériences de pensée au départ, qui étaient censées mettre en défaut la mécanique quantique, justement, et elles ont été réalisées et donnent encore une fois raison à la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'une mesure n'est pas faite, dans l'expérience dont vous parlez, qui s'appelle expérience à choix retardé, on essaie de piéger des particules, de les tromper, en ne décidant qu'au dernier moment la propriété d'elle qu'on va mesurer, position par exemple ou bien impulsion. Et en fait, on n'arrive jamais à les piéger, ce qui semble contradictoire. Et ça a été une expérience, à la suite de beaucoup d'autres, une expérience de pensée qui a été inventée pour tenter de mettre en défaut la mécanique quantique. Et une fois de plus, elle a résisté.
Bien, alors on nous dit que notre expérience retardée nous laisse pas le choix. Donc je vous remercie, Étienne Klein, vraiment un grand merci à vous. Merci beaucoup. Ah, c'était vraiment...